Vous êtes tous geeks, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Yves Kemener. Et Yves est particulièrement actif en ce moment puisqu'il assure peut-être la suite en Égypte. Alors Yves, explique-nous un petit peu ce que tu es en train de faire.
Ouais, sur la suite, c'est un peu un grand mot. Je participe à un effort qui a été monté par un groupe d'hackers qui s'appelle Telecomics, qui est un groupe suédois, et qui ont été assez actifs ces derniers temps en Égypte en essayant de rétablir des connexions nettes par tous les moyens possibles, par radio amateur, par connexion RTC. Je participe au projet de Streisand, c'est-à-dire j'ai un miroir qui est connecté à d'autres miroirs dans le monde et qui essaye de fournir une copie des contenus qui sont censurés par le régime égyptien, donc qui étaient censurés par le régime égyptien. Aujourd'hui, on n'arrive pas trop à savoir s'ils ont rétabli le net en remettant la censure ou pas. Donc voilà, j'ai participé à ça comme quelques centaines de personnes, je pense. Et j'encourage le plus de monde possible à venir participer à l'effort. C'est vraiment pas très difficile.
Alors comment quelqu'un qui s'y connaît pas trop en high-tech pourrait quand même aider l'Égypte sur ce point de vue? Il faut quand même avoir des bases.
Le mieux, c'est quand même de commencer à passer 2 ou 3 heures à comprendre ce qu'est un miroir et comment on en monte un. C'est pas extrêmement compliqué, et sur justement le site de Telecomics qui est werebuild.eu, ils offrent des tutoriaux sur comment mettre en place un site web en fait, et comment copier un site web dans son propre site web, ce qui est un miroir.
Alors, on parle de l'Égypte depuis tout à l'heure, on pense aussi à la Tunisie où pareil il y avait des sites censurés qui étaient dupliqués en fait, c'est ce qu'on peut dire pour un miroir, pour expliquer simplement. Je dis pas trop de bêtises, hein.
Oui, c'est ça.
On vulgarise ici. Et donc, l'idée aussi, c'était que d'une certaine manière, il y ait des connexions Internet. Donc, tout à l'heure, on parlait du vieux modem, hein, avec par exemple le fournisseur d'accès FDN, qui avait mis en place un numéro de téléphone où les gens pouvaient appeler via leur vieux modem qui faisait du bruit. Je sais pas si vous vous souvenez de ces gens qui... Voilà, exactement. Et on pouvait continuer à accéder. Aujourd'hui, en Égypte, il y a une situation qui est un petit peu obscure. Est-ce que vous avez des informations de votre côté qui reviennent via des réseaux un peu parallèles?
Alors, déjà, il faut savoir que le net est revenu en Égypte depuis quelques jours. Hein, ils l'ont rebranché. Et quand le net a été coupé, il y a d'abord eu un petit moment de choc parce que c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait, pas à cette échelle en tout cas, qu'un gouvernement censure Twitter, censure Facebook, censure des sites en particulier. Ça, on avait l'habitude et on avait des moyens de contourner ça. Mais qu'on débranche complètement un pays du net, ça a été vraiment un choc. Donc les technos n'étaient pas vraiment prêtes, mais on a fait énormément de tests. Enfin, je dis « on », mais moi j'étais principalement sur l'effort de mirroring. Mais il y a eu des gens qui font de la radio amateur, par exemple, qui ont essayé d'établir énormément de liens avec l'Égypte. On a appris au bout d'un moment que les gouvernements égyptiens avaient demandé à tous ces radio amateurs de cesser d'émettre. Donc les rares personnes qu'on pouvait entendre étaient dans l'illégalité. Il n'y avait pas énormément de liens, c'est compréhensible. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que tout n'était pas déconnecté, que dans certains cas, il était possible d'avoir des connexions RTC, donc c'est-à-dire des connexions par téléphone, par ces vieux modems 56K, en international. Donc c'est suite à ça que la FDN, je salue Benjamin Bayard, qui est un ancien de mon école, c'est le président de la FDN, qui est très actif en ce moment sur tout ce qui est liberté numérique. Ils disposent de beaucoup de modems 56K, donc qui sont en désuétude et qui sont plus très utilisés aujourd'hui. Il a mis ces lignes en disposition de tous les Égyptiens qui sont capables de passer des coups de fil internationaux pour qu'ils se connectent à Internet. Et il y a quelques jours, il était en train d'essayer de mettre en place un système pour qu'ils ne payent pas les frais de connexion internationaux. Je ne sais pas s'il y est arrivé.
Comment vous avez décidé d'aller aider l'Égypte de votre manière?
Ça a commencé avec la Tunisie. Bon, je suis un petit peu ce que fait le parti pirate et les différents partis pirates mondiaux. Et en Tunisie, il y a eu quelque chose qui était assez, qui a mis le parti pirate assez au centre de tout ça. C'est qu'un des 3 ou 4 blogueurs qui ont été arrêtés au tout début des émeutes était un des membres fondateurs du parti pirate tunisien. Donc, on a eu des infos d'assez première main. Et bon, on a tout de suite parlé de techno, on a tout de suite parlé de censure, de mirroring. Donc, sur la Tunisie, l'effort de mirroring a été actif et a été a priori assez utile puisqu'il n'y a pas eu de déconnexion totale du net. Donc après, c'est logiquement qu'on s'adresse au même groupe pour voir ce qui se passe en Égypte. Parti Pirate a mentionné qu'il y avait des choses à faire techniquement. Je me suis renseigné sur les quelques channels IRC de Hackerspace que je connais. On m'a dit « va voir le groupe Telecomics, ils font des choses ». Et bon, c'est pas du tout un groupe privé, hein. Ils sont vraiment sur des canaux IRC ouverts. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un canal IRC. C'est un petit peu l'ancêtre de MSN, des Messenger à la JTOG. C'est la CB du Messenger. C'est des endroits, des salons de chat, tout simplement.
Ouais, qui, là, en l'occurrence, sont ouverts au public.
Donc là, qui sont complètement ouverts au public, c'est irc.telecomics.org. Et bon, voilà, il suffit de faire un slash list pour avoir la liste de tous les canaux disponibles et d'aller sur les plus fréquentés. Donc celui sur l'Égypte, c'est dièse JAN25 pour 25 janvier. C'est le jour où les émeutes ont vraiment commencé.
Parce que on va le dire hein, entre nous, aujourd'hui vous avez un t-shirt Parti Pirate. Le Parti Pirate. Non mais je vais me permettre une vanne et
au final, ça sera pas la première.
Non mais on va avoir des problèmes. À quand l'organisation de mouvements identiques en France?
La blague c'est que mon t-shirt c'est celui du Parti Pirate français. Il y a pas mal de problèmes. On rame un petit peu pour démarrer quelque chose de bien en France. Il y a une cellule Rhône-Alpes qui est à Lyon, hein, qui est joliment baptisée la CRAP, cellule Rhône-Alpes du Parti Pirate. En France, ça n'a pas un franc succès. Je ne sais pas exactement pourquoi.
Les gens n'ont pas encore reçu assez de lettres d'Adopi.
Oui, peut-être que c'est ça. Bizarrement, il y a eu beaucoup de trafic pendant le débat Adopi. Il y en a eu un petit peu suite au débat Lopsi. Mais bon, ça se calme un petit peu. On n'est pas au niveau de la Suède où il y a eu quand même des sondages qui donnaient 9%
d'intention de vote.
Ni en Allemagne où, dans pas mal d'élections, ils sont autour de 2%.
On revient un petit peu sur la France, deux minutes. On a eu donc Adopi, aujourd'hui on a l'Opsi, beaucoup de lois d'un point de vue internet liberticide. J'ai envie de dire liberticide pour le grand public, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en informatique, Adopi, il en a un petit peu rien à foutre.
Bah, c'est-à-dire que oui, jusqu'à ce que... Bon, moi c'est surtout la l'Opsi qui m'inquiète en ce moment, parce qu'Adopi, je vois qu'il y a énormément de façons de la contourner, que... Elle est mauvaise, mais elle est inutile, donc à la limite, ça ne fait que coûter 16 millions d'euros par an. Liberticide, pas tellement de mon point de vue, qui sait un petit peu utiliser les techniques. Je sais que moi, ça ne va pas m'inquiéter. Non, à la limite, moi, ça ne m'inquiète pas. Ça va plus être des personnes qui n'ont pas de connaissances techniques, qui risquent d'en pâtir, qui risquent de ne pas comprendre pourquoi des gens ont piraté leur connexion et pourquoi ils sont responsables de ça.
Aujourd'hui, la fameuse clé WEP que vous mettez sur votre modem routeur, vous pouvez la faire... Nous, à Lyon Capital, on la craque en 15 minutes. Vous la craquez en...
Oh, mais les outils sont ouverts et ils sont partout pareils, donc 15 minutes également aussi.
Avec live CD, comme on dit. Enfin, voilà.
Bon, il y a plusieurs versions de WEP. Il me semble que la dernière est quand même assez solide. Sinon, le WPA2 est ce qui se fait de mieux. On peut sécuriser des connexions. On peut sécuriser des connexions wireless. Simplement, c'est pas l'état dans lequel certaines box sont livrées. Les live box, les free box normalement sont assez bien faites. Mais bon, il y a plusieurs box, surtout les plus anciennes, qui, si elles n'ont pas été mises à jour, sont tout à fait vulnérables.
Voilà, on ne peut pas mettre une clé WPA qui reste aujourd'hui l'ultime rempart. Mais une fois dans cette émission, on parlait du cryptage quantique. Alors, ça n'a rien à voir. Hein. C'est le cryptage le plus perfectionné à base de physique quantique. Et même le cryptage quantique, qui est censé être la méthode la plus inviolable, a été violé. Donc, ça laisse songeur. Pour revenir sur l'Opsi, il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va permettre aux gens de se protéger contre cette loi?
L'Opsi, elle a pas mal de problèmes, et pas que du point de vue informatique.
Ouais, c'est une loi fourre-tout.
C'est une loi assez fourre-tout. Enfin, moi, personnellement, ce qui me fait le plus peur, c'est les milices civiles armées. Mais il y a en effet, du point de vue liberté du net, un truc assez grave dans l'Opsi, c'est la possibilité de censurer Internet sans l'intervention d'un juge. Donc, c'est le fameux argument, si vous avez rien à cacher, vous avez rien à craindre. Mais oui, non, ça n'a rien à voir, en fait. Mais... Donc on se retrouve dans une censure internet qui passe par une autorité administrative. Voilà. Le but officiel, c'est, je crois que c'est ce qui est mentionné, c'est de lutter contre la pédopornographie.
Ouais, c'est l'argument habituel. Hein.
L'argument habituel, c'est le cheval de Troie.
En fait, excusez-moi de vous dire ça, vous êtes un pédophile.
Oui, et puis un pirate, et puis un terroriste. Bon, on a eu un petit peu toutes les sauces. Oui, un communiste aussi, a priori, parce que je fais de l'open source. Oui, c'est vraiment l'argument cheval de Troie, et les associations de défense de l'enfance militent souvent contre ce genre de loi parce qu'ils disent que la censure, ce n'est pas du tout quelque chose qui les intéresse comme mode d'action.
Alors l'année dernière, dans Lyon Capital, on avait fait un dossier sur qui vous surveille. Et on avait eu un policier spécialisé dans la recherche des pédophiles sur Internet qui, sous couvert d'anonymat, nous confiait que lui, ce qu'il arrangeait, c'est qu'il n'y ait aucune loi. Comme ça, les pirates sont plus faciles. Enfin, les pirates, pardon, excusez-moi le lapsus. Parce que les pédophiles, au moins, se cachaient beaucoup moins.
Mais oui, ce qui se passe, c'est que le grand public utilise très peu les réseaux cryptés qui offrent pas mal d'anonymat, qui permettent d'échanger des fichiers dont un espion puisse pas trop savoir ce qu'ils contiennent. Et donc, lorsque l'État n'a pas vraiment de raison de regarder les communications de citoyens normaux, une communication cryptée a l'air assez louche. Donc, c'est soit un geek comme moi qui est très intéressé par la crypto, soit quelqu'un qui vraiment sait qu'il a des choses à cacher et à ce moment-là, ça intéresse les enquêteurs de savoir d'où ça vient et où ça va. Et donc quand ça vient d'un site russe bancaire qu'il y a eu des échanges d'argent, ils se demandent s'il n'y a pas eu des contreparties, ils peuvent enquêter. Ce qui se passe avec des lois comme Adopi, c'est que en masse, on va probablement bouger vers des réseaux qui sont plus cryptés, plus sécurisés. Et que les enquêteurs vont plus avoir ce moyen-là à disposition pour regarder les communications louches. Donc c'est ça qui les inquiète énormément.
Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un problème, et je parle ni de droite ni de gauche, je parle de la classe politique dans son ensemble, un problème de totale méconnaissance du sujet? C'est-à-dire que par exemple tout à l'heure vous disiez que vous faites de l'open source ou du logiciel libre pour simplifier. Nous on a eu des politiques, lorsqu'on a dit logiciel libre, on nous dit le logiciel libre c'est quoi? C'est du piratage. Donc est-ce qu'il n'y a pas vraiment un gros problème? C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont laissés dépasser par le web 2.0 et qui tous ces réseaux sociaux, toutes ces méthodes de partage, et qui aujourd'hui, ne comprenant rien, décident tout simplement de fermer la vanne.
Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Et bon, c'est pour ça que je trouve que le Parti Pirate, même s'il fera probablement jamais plus de 5 ou 10% en France, est une initiative intéressante parce qu'elle permet de donner un poids justement à ces revendications, de dire aux politiques, vous connaissez rien en informatique, c'est normal, c'est pas votre métier, mais entourez-vous d'experts et écoutez-les. Parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un autisme des décideurs qui refusent d'écouter les associations qui, depuis des années, voire des dizaines d'années dans certains cas, leur disent il va y avoir un problème au niveau de la propriété intellectuelle, il va y avoir un problème au niveau du piratage et au niveau de l'économie, de la culture, dès qu'on se met à partager des fichiers sur Internet. Il faut vous pencher dessus. Ça fait depuis les années 90 qu'on entend ça, ça fait depuis les années 90 que ce n'est pas entendu par les politiques.
Donc il faut aussi arrêter l'argument du piratage qui nuit à la vente des CD. Lorsqu'on regarde les fichiers les plus téléchargés en France, on se rend compte que c'est souvent ce qui marche le plus d'un point de vue commercial.
D'ailleurs, il y a de plus en plus d'études qui ont l'air de contredire l'apparent bon sens qui dit que toute œuvre piratée, tout piratage d'une œuvre est une vente qui ne se fait pas. Ça, c'est le calcul actuel des majors. Bon. Il est quand même assez ridicule.
Au Midem de Cannes, il y a une étude qui vient d'être publiée qui dit que les pirates sont parmi les plus gros consommateurs de produits culturels.
Donc ça, c'est un résultat qui est quand même connu depuis plusieurs années.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que depuis les années 90, il y a quand même des messages qui le disent ouvertement. Et puis on sait quand même que parmi les pirates, on a des gros consommateurs de par exemple, de musique. Peut-être pas non plus, c'est pas du David Guetta, c'est pas du Black Eyed Peas, c'est une autre forme de musique souvent. Enfin, j'ai jamais croisé de hacker qui écoutait du David Guetta perso, mais voilà, c'est aussi une forme de consommation. Il y a peut-être une révolution à faire, c'est-à-dire que aujourd'hui on voit que le libre arrive à faire de l'argent avec du gratuit. Est-ce que peut-être que l'industrie culturelle n'a pas aussi une méthode pour faire de l'argent avec du gratuit?
Oui, elle n'a pas une méthode, elle a énormément de méthodes, mais le problème c'est que les gens dont le travail c'est justement d'expérimenter ce genre de choses, de s'adapter aux nouveaux paysages économiques, comme on dit, ne font pas ce travail. Les grands majors et même les petits labels ne font pas l'effort d'essayer de trouver de nouvelles façons de rentabiliser les artistes, ne voient pas le piratage comme une audience énorme qui s'ouvre à eux. Je trouve assez étonnant quand même que des gens dont c'est le métier ont du mal à rentabiliser le fait d'avoir tout d'un coup un public 10 fois plus grand. Donc forcément c'est un public 10 fois plus grand qui ne paye pas pour entendre la musique, mais entendre la musique, c'est pas la seule chose que les artistes ont à vendre. On peut vendre des goodies, comme on dit. On peut vendre des places de concert.
Ouais, ce que j'allais dire, du concert, du live.
On peut vendre du live, mais il y a énormément d'autres modèles qui existent aussi. Dans le modèle du software, il y a eu le modèle de la rançon qui est utilisé pendant un moment. Il y a le modèle du micro-mécénat que personnellement j'aime assez. Il y a des choses comme Flutter qui se mettent en place.
Le micro-mécénat a montré un petit peu ses limites avec la fermeture l'année dernière de Spydart à Lyon, où on pouvait financer des artistes et au final ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'on a eu qu'un seul Grégoire et pour l'instant on attend un petit peu le deuxième artiste comme Grégoire où c'est les internautes qui achètent des parts.
Oui, il y en aura d'autres. Il y en a eu un. Il y en a eu un qui a eu des problèmes. On apprend. C'est vraiment un modèle qui est très nouveau et on est obligé de l'expérimenter avec des indépendants complets, avec des gens qui n'ont pas de parachute, qui se lancent sans filet. Ce serait international, commencer le grand...
My Major Company ?
Non, ce serait un label tel que MGM ou
Universal.
Ou Universal, voilà, qui se lance dans ce genre de choses, qui donnerait un petit coup de sonde, qui déciderait de fournir 10 millions à une boîte qui essaierait de rentabiliser comme ça des artistes sur du micro-mécénat. Ça aurait quand même une autre figure, ils auraient d'autres moyens et voilà, on aurait de la publicité partout à la télé pour ça, on aurait de la publicité partout dans les journaux. Moi j'ai pas vu beaucoup de pubs sur My Major Company que je connais parce que je m'y intéresse, ouais, mais c'est pas sorti d'un cadre très confidentiel.
Ce que j'allais dire, il y a surtout un petit peu de viral des pubs avec Jean-Jacques Goldman sur le net, mais mis à part ces vidéos, on n'a pas eu grand-chose. Pour terminer cet entretien, on va parler un petit peu de votre activité sur les hackerspace. Alors, qu'est-ce qu'un hackerspace ?
Alors Hackerspace, comme on sait que le terme hacker a une assez mauvaise presse en France, sur Grenoble Succès Ouvert, c'est traduit par laboratoire ouvert grenoblois. Donc si on en ouvre un sur Lyon, ça fera le LOL, le laboratoire ouvert lyonnais. Mais sinon, un Hackerspace, c'est un endroit où des gens se rassemblent pour hacker, au sens anglais du terme, c'est-à-dire bricoler des choses, qu'elles soient électroniques, qu'elles soient informatiques. L'idée, c'est de démonter, de remonter, de contourner l'usage ordinaire. Donc initialement le mot hacker est devenu synonyme de pirate informatique au sens expert sécurité, parce que dans les années 80, dans les années 70, c'était des gens qui ouvraient ces boîtes noires qui étaient les ordinateurs, qui étaient les routeurs et qui essayaient de comprendre comment ils étaient faits, qui découvraient des failles et qui les exploitaient. Mais c'est bien plus que ça aujourd'hui, c'est moins de la sécurité que d'ouvrir des boîtes noires, ouvrir les téléphones portables, faire par exemple sa propre antenne pour téléphone portable et faire son propre réseau, essayer de mettre en place des réseaux qui passent pas par les fournisseurs d'accès, donc ce qui aurait été très utile par exemple au Caire. Je sais qu'à Grenoble, donc, on a monté une imprimante 3D qui imprime des pièces en plastique couche par couche, donc qui permet de... On avait imprimé des petits Lego, des petits engrenages, des choses comme ça. C'est des gens qui bricolent avec un petit peu toutes les technologies, donc il y a des gens qui font des drones, il y a des gens qui font de la chimie.
Ouais, on est quand même loin de l'image que nous donnent le cinéma et la télé, du mec avec des lunettes qui va pirater le site du FBI pour aller chercher des infos secrètes sur Roswell et compagnie.
Oui, bon, on est assez loin, c'est pas des pirates informatiques, donc en anglais il y a toujours le vieux débat cracker, hacker. Hacker à l'origine, ça veut pas dire un pirate informatique, ça veut pas dire quelqu'un qui va s'introduire sur des systèmes informatiques, ça veut dire quelqu'un qui veut jouer un peu avec tous les systèmes complexes qui lui tombent sous la main. Donc non, c'est pas quelque chose qui est dédié à la sécurité informatique, c'est quelque chose qui est dédié au bricolage, qui est dédié à, j'allais dire un peu la subversion technologique, mais qui est dédié à détourner l'usage habituel des outils qu'on utilise.
Oui, ou tout simplement l'ouvrir. Lorsque on voit l'iPhone qui est l'un des systèmes les plus fermés qui soit aujourd'hui et que certaines personnes les jailbreak, comme on dit, c'est une forme de hacking.
Oui, voilà, oui, c'est ce genre de choses qu'on appelle du hacking également.
Parce qu'il y a aussi la volonté quand même d'ouvrir des systèmes qui sont profondément fermés.
Oui, il y a cette grosse volonté, il y a une intersection très grande entre les gens qui font partie d'Hackerspace et le mouvement open source. Et bon, l'idée est vraiment d'amener le plus de connaissances possible, de les partager. Donc quand quelqu'un met sur le marché un objet en disant vous n'avez pas le droit de l'ouvrir et vous n'avez pas le droit de savoir comment il marche, c'est évident que des hackers vont l'acheter, vont l'ouvrir et vont lui faire subir toutes les tortures possibles jusqu'à ce que sur Internet se retrouvent toutes ces spécifications.
C'est le gros problème, hein, la PSP, l'iPhone, la Xbox, la PlayStation 3. Souvent le piratage, jusqu'à présent, on était dans la copie pure et dure. Et les systèmes sont tellement fermés que ça titille l'intérêt et on se retrouve avec l'effet inverse.
Oui, et puis c'est... C'est pas vraiment à des fins de piratage. En fait, on parle beaucoup des moddings de Xbox et de PlayStation pour faire tourner des jeux copiés. Mais un des plus gros intérêts, à mon sens, et ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais c'est vrai, c'est de faire tourner Linux dessus. C'est de faire tourner un système qui est générique et qui peut faire tourner un peu tous les logiciels libres qui existent aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que la PlayStation 3 est une console qui est vendue quasi à perte, voire à perte à certains moments, qui est un ordi en fait très puissant et qui a un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on peut avoir au niveau puissance de calcul prix.
Ouais, alors Sony avait au début vanté la possibilité d'installer Linux dessus, mais rapidement ils sont revenus dessus et ils ont enlevé cette possibilité.
Oui, puisque dans certains pays, ils perdent de l'argent à chaque console qui est vendue. C'est pas tout à fait légal dans pas mal de pays de faire de la vente à perte, mais ils avaient monté un schéma qui faisait que ça ne leur apportait en tout cas pas d'argent de la vente.
Mais en tout cas, ça fait, si on prend une PlayStation 3 et qu'on installe Linux dessus, ça vous fait un ordinateur à 300 euros.
Oui, ça fait un ordinateur à 300 euros, mais si vous en achetez 10 et que vous les mettez en réseau, ça vous fait un super calculateur à 3000 euros. Et il y a certains labos qui ont commencé à faire ça. Je me demande si c'est pas ce qui a fait un peu peur à Sony, parce que quand un labo a commencé à en mettre 10 ensemble, il y en a un autre qui va en mettre 100, il y en a un autre qui va en mettre 1000. Ça faisait des supercalculateurs pas très chers, donc sachant que sous Linux, et puis je pense que ça doit même être possible sous Windows, il y a des logiciels qui permettent de relier plusieurs ordinateurs ensemble au sein d'un gros supercalculateur, donc multiplier comme ça la puissance de calcul.
Alors un méga ordinateur, non pas pour faire du jeu, mais pour faire du calcul complexe. Hein. Par exemple, on donne des exemples très rapides sur le supercalculateur. Décoder un génome, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Un des plus gros efforts collaboratifs de calcul en ce moment, c'est le repliement des protéines. C'est un problème qui intéresse beaucoup les biologistes, qui permet de comprendre, donc c'est un peu le décryptage du génome, c'est l'étape après le décryptage du génome, qui leur permet de comprendre comment les différentes protéines sont générées.
Et si vous avez envie de faire partie d'un super calculateur et de vous amuser, il y a toujours le projet SETI.
Oui, alors SETI Atom, ça a été le premier projet à comme ça partager la puissance de calcul des ordinateurs individuels, mais maintenant il y en a beaucoup d'autres. Et je recommande plus Folding Atom, donc qui a des applications très concrètes qui peuvent permettre de faire avancer la recherche médicale. Et il y en a des dizaines d'autres également, donc d'autres qui vont par exemple faire tourner des simulations d'épidémiologie de la malaria pour aider à justement contenir et à obtenir de meilleurs modèles de vaccination, ce genre de choses. Il y a des dizaines de projets. Il suffit de chercher.
On trouvera rapidement sur le net. En tout cas, SETI, ça permettait de chercher la vie extraterrestre avant qu'elle nous tombe sur la gueule. Mais sinon, pour terminer cet entretien, moi, je voulais savoir quel regard vous portiez sur ces jeunes de 14, 15 ans qui se retrouvent sur des forums style 4chan. Et je sais jamais comment on dit, Ashan, 4chan.
Moi, je dis 4chan.
4chan, pareil. Et qui lancent des attaques DDoS, c'est-à-dire qu'ils vont surcharger les sites qu'ils attaquent jusqu'à ce que le site lâche. Ah, je vulgarise bien.
Ouais, c'est le groupe Anonymous, c'est comme ça qu'on en parle dans la presse.
Et qui donc se prétendent, enfin qui sont même pas, qui sont à leur manière des crackers et pas des hackers. Qu'est-ce que vous pensez?
On les appelle des scripts qui disent en fait.
Scripts qui disent.
Donc des gens qui n'ont pas de connaissances profondes en informatique, mais qui utilisent des outils tout faits, donc en l'occurrence un outil qui s'appelle Loïc, et qui permet de lancer des attaques automatiquement sans en comprendre le fonctionnement. Sans en comprendre les risques non plus, puisqu'il y a pas mal de gens qui ont participé à ces attaques qui ont été arrêtés dans pas mal de pays. Un peu moins aux US parce que justement ils se noyaient dans la masse, il y a eu des milliers de personnes qui ont fait ça au même moment, donc tout le monde n'a pas pu être arrêté. Mais le regard que je porte là-dessus, j'étais assez hostile à l'idée, enfin, ça ne m'intéressait pas trop comme protestation jusqu'à récemment, jusqu'à ce que je vois que les médias en parlaient beaucoup plus que les efforts qui me semblaient plus intelligents et plus construits. Donc aujourd'hui, je considère que ce qu'ils font, ça ressemble un petit peu à une manifestation, donc une manifestation qui va bloquer des rues, qui va empêcher le commerce chez les riverains, donc qui a pas mal d'inconvénients, et qui est reconnue comme une forme de manifestation politique correcte.
C'est pas un petit peu énervant de voir que quelqu'un qui balance donc des programmes tout faits est plus entendu que des gens qui font un vrai effort de construction?
Certes, profondément mon sens de l'élitisme, mais... Non, c'est une expression. C'est des gens qui sont frustrés par une situation et qui font ce qui est en fait un petit peu du vandalisme. Donc, Bon, ça m'intéresse moins que les efforts un peu plus construits qui sont déployés derrière. Et j'invite donc les gens qui ont comme ça tagué un petit peu les façades d'Amazon et de Mastercard en participant à ces attaques, à maintenant venir rechercher un petit peu mieux les enjeux d'Internet, des nouvelles lois, à passer quelques heures à comprendre comment fonctionnent les outils qu'ils ont utilisés, pourquoi on peut les trouver, à comprendre ce qu'il y a d'anormal dans la sphère technologique aujourd'hui et à aider à le résoudre.
Eh bien Yves, merci. Comme d'habitude dans cette émission, lorsque le premier épisode a été passionnant, on fera sûrement des suites pour faire des trilogies. Je vous remercie et puis eh bien, bon courage pour l'Égypte, bon courage pour la suite et peut-être le parti pirate, alors non pas au cantonal, ça risque d'être un peu trop tôt sur Lyon.
Il devrait y avoir une ou deux candidatures quand même en Rhône-Alpes.
Parfait. À bientôt, merci.
Merci. Game over.